أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
La traduction de ce verset est comme suit. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le critère. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit y jeûner, mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre de jours ultérieurement. Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas la privation. Il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui soyez reconnaissant. Dans ce verset, Dieu a mentionné le lien spécial entre le mois du Ramadan et le Saint-Coran. C'est le mois béni pendant lequel le Coran fut révélé. La révélation du Coran débuta au cours de ce mois. Et ce fut au cours de ce mois que l'ange Gabriel faisait lire ou faisait reviser au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam toute la partie du Saint-Coran qui a été révélée jusqu'alors. C'est le mois pendant lequel on doit lire et comprendre cette parole divine qu'est le Saint-Coran. C'est donc un mois très important. On ne doit pas se contenter de jeûner et d'accomplir ce qui a été dit avant et après ce verset. C'est un mois important parce que Dieu a révélé le Coran, ce livre grandiose, au cours de ce mois béni. Le Coran, qui est le livre parfait, qui a présenté la charia parfaite, le Coran qui a été révélé à l'homme parfait, le prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière, tout comme le déclare le Saint-Coran, « Qul ya ayuhannasu, inni rasulullah ilaykum jamira » Il est dit au prophète, dit « Ô homme, j'ai été envoyé envers vous tous comme prophète de la part d'Allah. » Dans un autre verset, Allah déclare « Wama arsalnaka ila kafatan linasi bashiram wa nadhiram walakin akthara nasi la ya'lamun » Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que porteur de bonnes nouvelles et avertisseur pour l'humanité, mais la plupart des hommes ne savent pas. En tout cas, dans différents versets et de différentes manières, le Saint-Coran a annoncé que le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est ce prophète bien-aimé de Dieu qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas d'autres prophètes porteurs de loi. Le message du Saint-Coran est un message universel et le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Coran a annoncé qu'il est le dernier prophète, qu'il est ce prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Ainsi donc, sa grandeur est évidente. Le Messie premier Islam déclare que nous sommes les héritiers de ce grand prophète qui est une miséricorde pour l'humanité tout entière et qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Celui dont le livre a été protégé par Dieu, celui dont les vérités dépassent toutes les autres vérités. Le Saint-Coran présente le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, comme source de miséricorde pour l'humanité tout entière. Et ceux qui vont suivre les préceptes de ce livre et la pratique de ce grand prophète seront maintenant source de miséricorde pour l'humanité tout entière. C'est en suivant les préceptes de ce livre et c'est en suivant la sunna de ce grand prophète que l'on sera source de miséricorde pour l'humanité. Si seulement les mollahs extrémistes et les soi-disant érudits pouvaient comprendre cela. Si seulement ceux qui portent de grands boubous et qui se posent en érudits pouvaient comprendre ce point important. S'ils pouvaient tout simplement comprendre que les enseignements du Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui-même sont venus comme source de miséricorde pour l'humanité et qu'il n'était pas venu priver les citoyens du monde de leur paix, et qu'il n'était pas venu jouer avec la vie des innocents. Dans ce verset du Saint-Coran, Allah a déclaré que ce Coran est une direction pour l'humanité tout entière. Le Coran présente des signes évidents. Le Coran donne des signes clairs pour distinguer la vérité du mensonge. Il incombe donc aux croyants de profiter de ce mois béni, de ce livre éclairé, ce livre qui présente la direction et la différence entre la vérité et le mensonge. Eh bien, ils doivent profiter de ce mois pendant lequel on progresse spirituellement, un mois pendant lequel on essaye de se rapprocher de Dieu, un mois pendant lequel il essaye de rehausser le niveau de ses actes d'adoration. Il doit donc tout le temps avoir devant lui le Saint-Coran, car le Saint-Coran est son guide. Il doit aussi méditer sur le Saint-Coran. Il doit réciter, certes, le Saint-Coran. Il doit aussi réfléchir sur ses préceptes et les utiliser comme guide. Ailleurs, Allah a déclaré que le Saint-Coran est un guide pour les Muttaqis, Hudal lil Muttaqin. Il a aussi été dit qu'il est un guide pour l'humanité tout entière. Le niveau de direction est différent pour tout un chacun. Le Coran est aussi une direction pour les Muttaqis, car la direction ne se termine pas avec une foi verbale. La direction ne se termine pas une fois qu'on est cru. La quête de la direction est une chose perpétuelle. Et ceux qui se disent être Muttaqis et qui disent que leur amour et leur crainte de Dieu dépassent tout autre amour et toute autre crainte, s'ils sont sincères dans leur déclaration, ils vont devoir suivre chaque aspect, même infime, de cet enseignement. Car le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ceux qui ne méditent pas à ce sujet, ceux qui ne marchent pas sur les voies de la taqwa, ceux qui jeûnent par ostentation, se réveillent pendant la nuit pour rien, et elles ne jeûnent pas réellement et sont tout simplement en train de s'affamer et de s'assoiffer. L'on comprendra l'importance du jeûne lorsqu'on comprendra l'importance du Saint-Coran, lorsqu'on comprendra l'importance de ces enseignements qui ont été révélés et lorsqu'on va s'efforcer à suivre ces préceptes. Dieu a mis de l'emphase sur la purification de l'âme durant ces jours. Et c'est en lisant le Saint-Coran que l'on comprendra cela. Lorsque le croyant va passer par cet état, c'est là qu'il pourra présenter au monde cet enseignement sublime. C'est là qu'on pourra dire aux hommes qu'ils sont en train de se diriger vers leur destruction. C'est là qu'on pourra leur dire qu'ils vont détruire leur vie ici-bas et dans l'au-delà, et que s'ils veulent le salut, venez vers nous et nous allons vous guider dans cette direction. Le Saint-Coran ne se contente pas de faire des déclarations vides. Il est dit que si vous pratiquez ces enseignements, vous allez voir des signes de la direction. Mais comme je l'ai dit, nous allons devoir voir comment doit se comporter le musulman. Nous devons avoir en tête l'exemple d'un musulman et présenter cet exemple au monde. À notre grand malheur, ce sont les musulmans qui, par leur action, sont en train d'offrir l'occasion aux ennemis de l'islam de critiquer le Saint-Coran et de critiquer ses préceptes. Il y a une église aux États-Unis d'Amérique qui s'efforce de dénigrer les enseignements sublimes de l'islam et du Saint-Coran. Et pour le 11 septembre, ils ont l'infâme intention de brûler le Saint-Coran. Tout cela a été présenté dans les médias. Et les 10 objections que cette église a présentées concernant le Saint-Coran sont dénuées de tout bon sens. S'il est question d'objection, nous pourrons nous aussi critiquer la Bible. Mais nous n'allons pas agir ainsi. Nous ne sommes pas là pour créer le désordre. Certes, on peut avoir des discussions, on peut avoir des débats. Tout le monde peut émettre des critiques. Tout le monde a le droit de se faire et nous aurons tout le temps des débats. Mais cela ne donne pas le droit à un musulman de brûler la Bible en raison des préceptes qu'il présente à l'encontre de l'unicité de Dieu. Le Saint-Coran nous enseigne l'unicité de Dieu du début jusqu'à la fin. Et le Saint-Coran est venu établir l'unicité de Dieu et tous les prophètes sont venus pour cet objectif. Et c'est le Saint-Coran qui, dans tous les livres, a présenté la vérité concernant l'unicité de Dieu. Car sans unicité de Dieu, on ne peut y avoir de religion. Et le champion de Dieu de notre époque a présenté cet enseignement dans toute sa splendeur. Et ceux qui ont transformé un homme en Dieu ont tout simplement déclaré qu'on ne doit pas discuter avec Mirza Ghulam Ahmad de Qadian et ses suivants. Le christianisme d'aujourd'hui se base sur la Trinité. Et l'unicité de Dieu met en danger les fondations du christianisme. De la Bible, le Messie premier l'Islam a tiré les arguments pour prouver que Jésus-Christ a déclaré qu'il n'est pas le Fils de Dieu. La première objection présentée par cette Église et qui a lancé cette campagne contre le Saint-Coran est que le Saint-Coran n'accepte pas Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Et que le Saint-Coran déclare que le salut de l'homme dépend de ses actions et non pas en la croyance en la rédemption du Christ. Mais ces aveugles ne comprennent pas que Jésus-Christ disait la même chose. Et qu'on a défiguré ses enseignements plus tard en son nom, et on a fait d'un simple homme un dieu. Lorsqu'on fait face à l'échec, lorsqu'on n'a pas d'argument, la seule issue de sortie est l'extrémisme. Voilà la voie qui est en train de suivre cette Église. Dove World Outreach Center. Dans plusieurs endroits, Jésus-Christ a présenté cet enseignement concernant l'unicité de Dieu. Par exemple, dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, versets 29 à 30, Jésus-Christ déclare : Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. Il y a d'innombrables versets de la Bible qui rejettent la divinité du Christ. Le Messie promis à l'Islam a présenté tous ses arguments à ce sujet et a prouvé la suprématie de l'islam en ce sens. Et il a répondu à chaque objection des chrétiens. Et jusqu'à présent, la Jamaat Ahmadiyya est en train de le faire. Le Saint-Coran, on nous demande de prêcher la vérité. Le Saint-Coran nous demande de dire au monde que la vérité, c'est distinguer du mensonge et de l'égarement. Mais pour faire comprendre cela, on n'a pas à user de force. Celui qui veut, qu'il accepte, celui qui ne veut pas, qu'il n'accepte pas. Il est dit au prophète que la tâche qui t'incombe est de transmettre ce message du Coran aux autres. C'est à Dieu de guider les autres. Voilà l'enseignement sublime qu'ils veulent brûler par leurs indignes efforts. Qui est en train de promouvoir l'extrémisme? Qui est en train de mettre à mal la paix de la société? Les membres de cette église ou les musulmans? Cette église n'est même pas en train de suivre les enseignements bibliques. La Bible déclare que si on vous frappe à la joue droite, présentez la joue gauche. La Bible n'a pas déclaré que vous devez promouvoir la haine entre les religions. Beaucoup d'églises chrétiennes ont fermement condamné les intentions malveillantes de cette église et ils ont déclaré qu'ils ne vont pas participer dans leur campagne. Voilà comment doit agir toute personne intelligente. Voilà comment doit agir toute personne qui aspire à la paix. Par l'entremise des médias, la Jamaat Ahmadiyya essaye de mettre un frein aux actions de cette église qui prend le nom de Dove. Dove en anglais signifie la colombe et dans le christianisme, la colombe est un signe de l'Esprit Saint. Il est dit que l'Esprit Saint est apparu à Jésus-Christ dans la forme d'une colombe. J'ai demandé à la Jamaat des États-Unis d'Amérique de faire une campagne en ce sens et les autres Jamaat aussi doivent faire une campagne pareille pour faire comprendre au monde que cela va mettre à mal la paix de la société et au lieu de promouvoir l'amour par de telles actions, va ériger des murs de haine et d'antipathie. Ces gens-là ne voient pas le statut qu'a conféré le Saint-Coran à Hadrat Maryam, Marie, la mère de Jésus-Christ, et à Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Coran honore tout prophète. En tout cas, par leurs actions, comme je l'ai dit, ils vont ériger des murs de haine. Et ces musulmans qui, malheureusement, n'ont pas accepté le Messie promis l'Islam, sont sans contrôle. Et leur bride se trouve entre les mains de ces personnes qui ont tout simplement des intentions égoïstes. Ces musulmans pourront certainement réagir violemment. Le monde a besoin aujourd'hui d'amour, le monde a besoin de fraternité. Le monde a besoin qu'on le protège de la destruction. On doit tout simplement tirer l'amour de Dieu afin de se prémunir de la destruction. Et pour atteindre cet objectif, les chrétiens aussi doivent changer de direction et les musulmans aussi doivent réagir positivement. On doit présenter des arguments, on doit le faire par l'entremise des débats, mais on doit aussi respecter les sentiments religieux de tout un chacun. Si les musulmans sont sincères dans leur amour pour le prophète et pour le Saint-Coran, ils doivent chercher celui qui a été promis par Dieu et par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Ramadan est le mois pendant lequel le Coran fut révélé. Il fut révélé comme une direction pour toute l'humanité. Cherchez la direction qui a été indiquée par le Saint-Coran. Suivez la norme de direction qui a été présentée par le Saint-Coran. Pour être guidé, on doit aussi prier en toute sincérité. Dieu nous a enseigné cette prière, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Si l'on prie en toute sincérité en répétant ces paroles, Dieu va certainement nous guider, car Dieu guide aussi les non-musulmans. Si seulement nos frères musulmans pouvaient comprendre ce message empli de sympathie. Si seulement ils pouvaient suivre ces conseils afin qu'ils puissent embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Le Messie premier, alayhi salam, déclare que le Saint-Coran est la source véritable de toute bénédiction et le seul moyen du salut. Et ceux qui ne suivent pas les préceptes du Saint-Coran sont les fautifs. Parmi ceux qui ne le font pas, il y a ceux qui ne croient pas que le Saint-Coran est la parole de Dieu. Ces gens sont très éloignés, mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il y a ceux qui acceptent le Saint-Coran comme la parole de Dieu et comme la source du salut, mais qui ne suivent pas ses préceptes. Parmi eux, il y a aussi ceux qui n'ont jamais lu le Saint-Coran au cours de leur vie. Ces gens qui font fi de la parole de Dieu sont à l'exemple de celui qui sait où se trouve une source dont l'eau est désaltérante et pure, une eau qui guérit toutes les maladies. Il a cette certitude. Mais si, en dépit de ses certitudes, et en dépit de sa soif et de sa maladie, il ne profite pas de cette source, ce sera le comble de l'ignorance et ce sera le comble du malheur. Il devrait se désaltérer à cette source et en profiter pleinement. En dépit de sa connaissance, il s'en tient éloigné comme s'il ignore l'existence même de cette source. Et cet état perdure jusqu'à ce que la mort le surprend. On doit tirer exemple de la situation de cette personne. Voilà l'état des musulmans d'aujourd'hui. Ils savent très bien que le Saint-Coran est la clé du progrès et du succès. Et ils savent très bien qu'ils doivent traduire ces préceptes dans la pratique, mais ils ne s'en soucient guère. Une personne pleine de sympathie les invite dans cette direction. Et le Messie premier l'Islam déclare à propos de sa personne que quelqu'un plein de sympathie les invite dans cette direction. Il le fait suite au commandement de Dieu, mais il qualifie cette personne de fiefé, menteur et d'antéchrist. Leur état ne mérite que pitié. Et nous voyons la même chose aujourd'hui. Loin de méditer sur le Saint-Coran, la majorité des musulmans ne lisent même pas le Saint-Coran. Et ils sont en train de suivre aveuglément les soi-disant érudits musulmans, ces érudits qui leur remplissent l'esprit en disant que le Saint-Coran déclarait que le Saint-Prophète est le dernier des prophètes et que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian s'est dit prophète. Si seulement ils pouvaient méditer à ce sujet, si seulement ils nous demandaient ce qu'il en est réellement, si seulement ils pouvaient faire des recherches. Mais puisqu'ils n'ont pas d'arguments, c'est pour cette raison qu'ils ont mis des restrictions sur la Jamaat au Pakistan et ailleurs dans le monde musulman. Ils disent aux musulmans que c'est de l'incroyance que de les écouter, c'est-à-dire que d'écouter les Ahmadis. Ils disent que c'est de l'incroyance que de saluer un Ahmadi. Si les chrétiens ont un comportement extrême, les musulmans en font de même à l'égard des Ahmadis. Et c'est parce que certains musulmans ont des comportements d'extrémistes que certains chrétiens ont commencé à agir de la même façon. Voilà l'état de ces musulmans. Mais ces musulmans n'ont même pas la certitude que si les Ahmadis sont en train de mentir, on pourra facilement le prouver. Leur foi est-elle si faible que s'ils parlent avec les Ahmadis, ils vont la perdre complètement et abandonner l'islam? Mais voilà ce que disent leurs ulémas. Et ainsi, les musulmans sont en train de détruire leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Il nous incombe à nous aussi de nous acquitter de nos devoirs. Il nous incombe à nous aussi de suivre ces directives et d'être les exemples pratiques des enseignements du Saint-Coran. Dieu nous a accordé encore une fois ce mois béni du Ramadan. Nous devons en profiter pleinement pour notre progrès spirituel et pour suivre les préceptes du Saint-Coran. Et nous allons devoir faire des efforts constants et nous pourrons agir ainsi lorsque nous allons lire le Saint-Coran quotidiennement, lorsque nous allons méditer sur ses préceptes, lorsque nous allons nous préparer pour suivre ses directives. Dieu a donné plusieurs commandements dans le Saint-Coran. Il y a plusieurs vertus qu'il nous a demandé d'adopter. Il nous a aussi demandé d'éviter des péchés. Il nous a demandé de suivre la voie qui va nous mener vers notre objectif ultime. Et le but du véritable croyant est d'avoir le plaisir de Dieu. Et le premier pas à faire dans cette direction est d'avoir cette foi dans l'invisible. Et ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est la foi dans l'invisible qui sera source de progrès spirituel. Et ainsi, l'on marchera sur les voies qui mènent à Dieu, et l'on comprendra les commandements de Dieu, et l'on pourra établir un lien ferme avec Dieu. Le Messie premier, alayhi salam, a déclaré à ce sujet que le muttaqi ne voit pas Dieu de prime abord. Il n'est pas non plus récipiendaire de révélations divines et de visions. C'est pour cette raison qu'il doit en premier lieu croire dans l'invisible. Et sa foi est sujette à une certaine affectation parce que sa foi en Dieu dépend de certaines fortes présomptions et se trouve à mi-chemin entre le doute et la certitude. Le muttaqi croit en Dieu, tout comme il a été dit, tout comme Allah déclare, Yu'minuna bil ghaib. Mais ne croyez pas que cette foi est inférieure. La foi dans l'invisible est la première étape du muttaqi et cette foi est d'une grande importance aux yeux de Dieu. Dans ce hadith, il est dit que le saint prophète a demandé à ses compagnons s'ils savaient ceux dont la foi est la plus grande. Ils ont répondu que c'est la foi du prophète. Celui-ci a tout simplement déclaré qu'il ne peut en être ainsi parce qu'il rencontre quotidiennement l'ange Gabriel et il voit tout le temps les signes de Dieu. Les compagnons ont dit que c'est peut-être notre foi à nous. Le saint prophète leur a répondu qu'il ne peut pas en être ainsi car vous aussi, vous voyez les signes de Dieu quotidiennement. Ensuite, le saint prophète lui-même a répondu à cette question en disant que la foi de ceux qui vont venir des centaines d'années après lui sera extraordinaire, car ils ne vont pas voir des signes qu'ont vus les compagnons, mais ils vont quand même avoir foi en Dieu. Si cette personne décède dans cet état, Dieu va lui accorder le statut d'un muttaqi. Même si cette personne n'a pas encore goûté à ses faveurs, même si cette personne n'a pas encore vu des signes, sa force est telle que non seulement elle croit en Dieu, mais elle traduit aussi cette foi dans la pratique en établissant la prière. Tout comme il a été dit, yuqimuna salat. Dans cet état de taqwa, il est assailli de doutes au cours de la prière. L'incertitude vient troubler ses pensées, mais il n'abandonne pas la prière pour autant, il ne s'enlace pas et il ne baisse pas les bras. Il y a aussi ceux qui abandonnent la prière après avoir été assaillis de doutes et de pensées malsaines. Il y a certaines qui sont frappés de soupçons et de doutes et qui abandonnent la prière. Mais le muttaqi est persévérant et maintient tout droit sa salah. Et dans l'état de taqwa, le muttaqi passe par deux phases. La première phase est une phase d'épreuve et la deuxième phase est une phase de sélection. Il doit passer par la période d'épreuve afin qu'il ne se lasse pas, afin qu'il ne baisse pas les bras. Au début, il ne tire aucun plaisir de ses actes d'adoration, mais sans désespérer, il s'efforce de prier jusqu'à ce qu'il ait pu se débarrasser de tous ses doutes. Satan ne s'arrête pas tant qu'il ne le détourne pas de Dieu et tant qu'il ne le détourne pas du saint prophète Mohammed paix sur lui. Il l'attaque en lui chuchotant des doutes dans l'esprit et nombre de personnes sont détruites en raison de ces chuchotements. En dépit du fait que l'homme ne sait pas s'il pourra vivre un instant de plus, ici, le Messie premier alayhi salam déclare que Satan vient chuchoter des pensées dans l'esprit de l'homme et le pousse à agir. Il déclare aussi que l'homme ne sait pas s'il pourra prendre un souffle après un autre, s'il vivra un instant de plus, mais Satan lui donne de faux espoirs et lui fait miroiter des choses. La première leçon à tirer ici est que si le muttaqi est brave, eh bien il va combattre contre ses chuchotements et ainsi il ne va pas baisser les bras. Au tout début, il ne tire aucun plaisir de ses actes d'adoration, mais sans désespérer, il s'efforce de prier jusqu'à ce qu'il ait pu se débarrasser de tous ses doutes et de tous ses soupçons. Satan est tenu en échec et le croyant remporte la victoire. Au cours de cette période, le muttaqi n'est point négligent, c'est une période de lutte acharnée contre les chuchotements et les doutes. Durant ces jours, donc, lorsque on se tourne vers la prière, par la grâce d'Allah, les mosquées sont remplies, on doit donc combattre Satan et user de toutes ses forces dans ce combat. Lorsqu'on va faire naître en soi ses qualités et lorsqu'on va implorer l'aide de Dieu pour combattre Satan, lorsqu'on va établir un lien ferme avec Dieu, et lorsque ce lien va se renforcer, lorsqu'on va faire ses efforts constants, c'est là que l'on sera guidé dans la bonne direction, c'est là qu'on profitera de cette direction qui a été évoquée dans le Saint-Coran. On va voir ces voies de direction qui seront éclairées, mais l'on doit aussi savoir que la foi dans l'invisible requiert que l'on accepte aussi toutes les prophéties faites par Dieu dans le Saint-Coran. Lorsqu'on va se tourner vers la prière et lorsqu'on aura cette foi dans l'invisible et lorsqu'on va traduire cela dans la pratique, comme l'a dit le Messie premier l'Islam, c'est-à-dire lorsqu'on va prier, lorsqu'on va essayer d'éviter les attaques de Satan, on va aussi prier pour qu'Allah renforce notre foi en nous montrant des signes. La foi en Dieu requiert cela. Et le croyant prie en ce sens. Il dit que tu as envoyé tes choisis auparavant pour guider les hommes. Guide-nous aujourd'hui aussi, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'un choisi. Le Saint-Coran fait la même prophétie. Il est dit « Wa akharina minhum lamma yalqaqu bihim » C'est-à-dire que le saint prophète viendra dans une autre époque parmi un autre peuple. Mais on ne doit pas avoir de malentendu ici parce que le saint prophète a déclaré que seule la foi de ceux qui n'ont pas vu des signes sera louable. Cette parole du saint prophète s'applique à cette période de ténèbres qui allait apparaître après sa venue selon sa prophétie. Cela concerne l'époque pendant laquelle il n'y aura pas à une grande échelle quelqu'un qui allait venir faire progresser les musulmans spirituellement. Certes, il y a eu à différentes époques et dans différents endroits des mujaddids, où cela peut concerner aussi ceux qui n'ont pas, même après, reçu le message des choisis de Dieu. Si ces personnes ont foi en Dieu, eh bien voilà les personnes qui ont protégé leur foi dans l'invisible. Et quant à ceux qui protègent leur foi dans l'invisible, eh bien en voyant les signes de Dieu, ils acceptent cela. Le Messie premier, l'Islam, a déclaré qu'il y a beaucoup de ces personnes qui ont accepté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sans demander de signe. Beaucoup d'entre eux ont cru dans l'invisible et avaient la certitude que ce que disait le saint prophète était la vérité. Avec la venue du Messie promis, a débuté cette période de signes. Et maintenant, par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya est en train de voir ces signes et en raison de leur foi dans l'invisible, ils savent très bien que toutes ces prophéties vont certainement se réaliser. Nous sommes en train de nous protéger des attaques de Satan et nous sommes en train d'embellir notre sola et nous sommes en train de nous éloigner de Satan et les chuchotements de Satan ne vont point nous faire trébucher. Les amis de Satan ont remué ciel et terre à notre époque pour détourner les Ahmadis de leur foi. Mais quant à nous, nous voyons des signes. Et quand nous passons par des épreuves, nous comprenons que tout cela n'est que prophétie du Saint-Coran. Car Allah a déclaré que les djamad divines passent par des épreuves. Et l'imam de l'époque nous a préparés pour cela. Comme je l'ai dit, nous devons faire des efforts pour profiter des bénédictions du Ramadan, pour prier, et ainsi nous devons nous rapprocher de Dieu et nous allons devoir renforcer notre foi. Et nous allons devoir prier pour que Dieu accomplisse ses promesses. C'est le mois de l'exaucement des prières. Et lorsque nous allons suivre les préceptes du Saint-Coran, et lorsqu'on va prier pour que les préceptes du Saint-Coran règnent sur le monde, eh bien, certainement, Dieu va montrer des signes puissants. Et certainement, le Saint-Coran, dans toute sa splendeur, va augurer la venue de la vérité et va faire disparaître le mensonge. Et les gens seront prêts à écouter l'imam de l'époque, cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui est venu guider le monde à la lumière des enseignements du Saint-Coran. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est venu protéger le Saint-Coran de la part de Dieu, eh bien c'est ce Messie promis. Et s'il y a une Jamaat qui peut accomplir cette tâche de la meilleure façon, eh bien c'est la Jamaat Ahmadiyya. Et plus qu'auparavant, nous allons devoir nous préparer pour cette tâche. Et plus qu'auparavant, nous allons devoir prier davantage, sinon nous serons considérés comme des négligents. Il incombe donc à tout Ahmadi que d'être l'exemple pratique du Saint-Coran et de faire des efforts constants en ce sens. Le Messie premier l'Islam a déclaré que le Saint-Coran renferme la prophétie que Dieu protégera l'Islam au moment de grands dangers, tout comme il a été dit « Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ». Suite à cette promesse, Dieu a pris 4 mesures de précaution pour protéger sa parole. Par l'entremise de mémorisateurs du Saint-Coran, il a protégé les paroles et l'ordre de son livre. Et à chaque siècle, il a fait naître des centaines de milliers de personnes qui ont préservé sa parole sainte dans leur poitrine. Ils l'ont préservé si bien que l'on n'a qu'à mentionner un seul mot pour qu'il présente tout ce qui vient après. Ainsi donc, on a protégé à chaque période les paroles du Saint-Coran. La deuxième mesure concerne ces imams et érudits à qui il a accordé à chaque siècle la connaissance du Saint-Coran. Avec l'aide des hadiths du Saint-Prophète, ils ont ainsi préservé l'essence de la parole divine. Troisièmement, il a préservé le Saint-Coran par l'entremise de ces érudits qui ont lié le Saint-Coran avec la logique et qui ont ainsi préservé le livre de Dieu de l'attaque des soi-disant philosophes. Quatrièmement, il a fait par l'entremise de ceux qui ont été récipiendaires de faveurs spirituelles et qui ont ainsi préservé le Saint-Coran de l'attaque de ses ennemis. Ainsi donc, sa prophétie s'est réalisée à chaque époque d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire cette prophétie qu'il va protéger le Saint-Coran. Il déclare aussi, et si à une époque donnée l'attaque de l'ennemi a été véhémente, Dieu a montré un plus grand sens de l'honneur en donnant naissance à ceux qui vont protéger ce livre. Mais la période que nous traversons est celle au cours de laquelle les ennemis ont essayé d'attaquer le Saint-Coran de ces 4 manières. Cette période de danger était sans pareil dans l'histoire de l'islam. Ils se sont attaqués à la compilation du Saint-Coran. Ils ont publié de fausses traductions et des commentaires erronés. Et nombre de chrétiens, de naturalistes et de musulmans ignorants ont essayé de détourner l'essence du Saint-Coran. Nombre d'entre eux ont dit que le Coran contredit la logique et la nature, que le Saint-Coran contredit aussi l'intelligence. Il clame aussi que le Coran prône la coercition, que le Coran prône la cruauté et l'injustice. Il accuse aussi le Saint-Coran de contredire les attributs divins et les lois de la nature. Et sous l'influence de prêtres et de pandites, ils sont nombreux à avoir renié les miracles du Saint-Prophète et des prophéties du Saint-Coran. Et ils sont brossés un tableau si ignoble de l'islam, de la parole de Dieu et du Saint-Prophète qu'ils ont pu, pour ce faire, générer la haine dans les cœurs de ceux qui cherchent la vérité. Cette période a donc requis que l'on défende le Saint-Coran en prenant ces 4 mesures afin que l'on puisse être à la hauteur des attaques lancées par l'ennemi. Cette période a coïncidé avec le 14e siècle. Ainsi donc, suite à sa promesse, Dieu a donné naissance à un réformateur au début de ce 14e siècle. Et ainsi, il a conféré à chaque réformateur un titre spécial, tout comme un auteur donne à son ouvrage un titre qui sied au sujet de son livre. C'est ainsi que Dieu a donné à ce réformateur le titre de Messie en raison des services qu'il va rendre, car il a été destiné que dans les derniers temps, le Messie viendra pour contrer les assauts de la croix. Ainsi donc, celui à qui a été confiée cette mission a été donné le titre de Messie. À qui donc a été confiée la tâche de briser la croix? Sommes-nous en train de vivre cette période ou pas? Comme je l'ai dit, il y a cette Église qui a présenté des objections qui ont déjà été répondues 100 ans de cela par le Messie premier des salams. Et ces Églises sont en train de présenter les mêmes objections. Mais personne ne pourra se mesurer au Messie promis, alayhi salam. Malheureusement, en dépit de cette tâche immense accomplie par le Messie promis, alayhi salam, une tâche qui a été louée par les autres leaders musulmans, en dépit de cela, les musulmans ne se sont pas réunis autour de lui alors que le saint prophète leur a donné l'ordre de lui présenter ses salutations. La majorité de ces musulmans se sont détournés de lui et s'opposent à lui. Tout cela est le rejet de la foi dans l'invisible. Et cette opposition vient de la part des extrémistes et ils sont en train de pousser leur opposition à l'extrême. Qu'Allah guide les musulmans, qu'ils puissent accepter ce bien-aimé de Dieu, cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu protéger le Saint-Coran. Qu'ils comprennent son message et qu'ils soient son soutien. Qu'Allah nous donne la possibilité à nous aussi d'user de toutes nos capacités pour soutenir ce champion de Dieu et que nous puissions transmettre le message du Saint-Coran au monde. J'ai évoqué les ennemis et aujourd'hui aussi, je dois évoquer les crimes commis par ces personnes ignobles au cours de cette semaine. Il y a eu au Pakistan, dans la région du Sindh, deux Ahmadis qui sont tombés en martyr. Mais ces gens ne voient pas quel est le décret de Dieu en raison de leur atrocité. Ils disent dans les journaux que certainement nous sommes en train de goûter le châtiment de Dieu en raison de nos erreurs. Mais ils ne comprennent pas quelles sont les erreurs qu'ils ont commises. Ils sont complètement aveugles. Et on m'a dit que dans un endroit, un mollah a déclaré que nous n'avons pas pu exterminer les Qadiani et c'est pour cette raison que Dieu est en train de nous châtier. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Inch'Allah, les Ahmadis vont passer par cette épreuve. Mais vous, les mollahs ignobles, vous qui prêchez ces atrocités au nom de Dieu et de son prophète, vous qui êtes en train de vous moquer du Saint-Coran, certainement Dieu va vous attraper. Certains Ahmadis me disent que lorsque je m'adresse aux mollahs, cela les pousse à commettre davantage d'atrocités et que je ne devais pas le faire. C'est là un malentendu de la part de nos frères innocents. C'est pour cette raison que je veux vous faire comprendre cela, que de toute façon, ils ont fait le plan d'exterminer les Ahmadis, même si je dis quelque chose ou pas. Ils ont de toute façon des plans contre les Ahmadis au Pakistan. Et ils vont faire des efforts ailleurs aussi. Je dis cela parce que je pense que peut-être que mes paroles vont tomber dans l'oreille d'une personne de bonne nature et qui pourra protéger la masse contre ces personnes ignobles. En tout cas, il nous incombe à nous de faire preuve de patience et de prier pour partir dans notre direction. Et au cours de ces jours, les Ahmadis doivent se prosterner davantage devant le seuil de Dieu. Qu'Allah retourne les plans des ennemis contre eux et qu'il accorde sa protection à tout Ahmadi et que nous soyons les héritiers des faveurs de Dieu. J'ai donc évoqué deux martyrs parmi lesquels il y a celui du docteur Najmul Hassan de Karachi. Il est sorti de sa clinique le 16 août 2010 vers 23h30. Il s'asseyait dans sa voiture lorsqu'un inconnu lui a tiré dessus. Il est décédé en cours de route à l'hôpital. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a reçu 13 balles aussi à la poitrine. Ses aïeux étaient de la région de Bahar. Et à l'époque du Messie promis l'Islam, Mokaram Mahmoud Alim de Bagpur était parti à Qadian pour rencontrer le Messie promis. Il a prêté allégeance aux mains du Messie promis et ainsi a implanté l'Ahmadiyya dans sa région. Le grand-père du docteur Najam et le Molvi Abdul Majid se sont joints à la communauté à l'époque du deuxième califat, et en 1956, ils se sont établis à Dhaka, au Bangladesh, en 1971. Sa mère s'est établie en Inde et au Népal pendant quelques années, et en 1975, ils se sont établis à Karachi. Le docteur Najmul Hassan est né en 1971, à Dhaka. Il a 7 frères et une sœur. Lui-même, il a fait des études à Karachi. Il a complété ses études de médecine au collège médical de Sindh. Il avait sa consultation privée et enseigné aussi dans 2 universités. Il était moussi par la grâce d'Allah. Donc, ce jour-là, il était sorti et il était dans sa voiture lorsqu'on lui a tiré dessus. Son frère, qui a une pharmacie à côté, est sorti et il a vu son frère hein, tout en sang. Il avait 39 ans et il était très brave. Son beau-père lui avait dit de changer d'endroit, mais le docteur Najam a toujours répondu qu'il a grandi dans cette région et qu'il a un devoir envers les gens de cette région. Il participait dans les camps médicaux de la Khudal Ahmadiyya. Mais ces personnes infâmes sont aussi en train de tuer même ces personnes qui sont là pour aider les autres. Jamais il n'a caché le fait qu'il était Ahmadi. Il était régulier dans ses prières. Il était un moussi, comme je l'ai dit. Il était très régulier dans ses prières. Il priait en toute humilité. Il était régulier dans ses contributions. Parmi la famille endeuillée, il a laissé sa femme et sa fille Shafia Hassan de 5 ans, son fils Mohamed Hussein de 2 ans et sa fille Maliha d'un mois et demi. Ces 3 enfants sont des Wakfena par la grâce d'Allah. Ensuite, il y a le martyr de M. Pir Habibur Rahman de Sangara. Ses aïeux étaient de la région de Gujarat. Et le premier Ahmadi de sa famille était le frère de son grand-père, Hadrat Dr. Rahmat Ali Saheb, radiyallahu anhu. un compagnon du Messie premier salam. Après cela, son grand-père, Hadrat Pir Barakat Ali, a embrassé l'Ahmadiyya. Et après cela, ses deux frères, Pir Iftikhar Ali et Hafiz Roshan Ali, ont embrassé l'Ahmadiyya en 1901, en 1912. En 1912, ces aïeux ont acheté des terrains dans la région du Sindh. Habibur Rahman Sahib est né en 1950 à Sangar. Il a fait ses études à Rabwa. Sa sainteté déclare qu'il étudie avec moi. Il était toujours jovial. Et organiser des réunions qui étaient pures. Pir Habibur Rahman Sahib est sorti de sa maison le 19 août 2010 pour partir vers sa ferme. En cours de route, alors qu'il était sur la route et lorsque sa voiture a ralenti, deux personnes à moto se sont rapprochées de lui. Ils étaient sur un tournant lorsque ces deux personnes qui étaient à moto lui ont tiré dessus. Il a reçu une balle à la tempe et il est décédé sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 60 ans. En 1990, lui et ses enfants sont partis aux États-Unis d'Amérique. Auparavant, il était qaïd de la Majlis Ulama Ahmadiyya de la région de Sangar. Il était secrétaire Mahal aussi. Et aux États-Unis d'Amérique, il était un des fondateurs du site alislam.org. Il était parmi les premiers. Et il a su trouver des gens pour travailler pour ce site. En 2006, son frère, le docteur Mujibur Rahman, est tombé en martyr et ainsi il est retourné au Pakistan afin de soutenir son père. Et après quelque temps, il s'est marié avec la veuve de son frère, car lui-même était veuf. Il était régulier dans ses prières. Il avait un très grand amour pour le califat. Il était toujours prêt à soutenir les faibles. Son père, Pir Fazlur Rahman Sahib, est toujours vivant. Il a 91 ans. Il a laissé 4 sœurs et 2 frères. Comme je l'ai dit, sa première épouse est décédée. Et parmi ses enfants, il y a Anisur Rahman de 32 ans, Omera Sahiba de 30 ans, Aisha Sahiba de 28 ans. Tous ses enfants sont aux États-Unis d'Amérique. Et de sa deuxième épouse, parmi les enfants de son frère, il a Azur Rahman, 13 ans, Mansur Rahman, 11 ans, Michel Omar, de 7 ans. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah accorde la patience à la famille endeuillée. Je dois aussi mentionner un frère, M. Moussa Rostomi. Je crois que j'ai dirigé sa prière funéraire lorsque j'ai dirigé la prière funéraire de M. Mustafa Fabit. C'est un frère très sincère, c'est pour cette raison que je veux mentionner quelque chose à propos de lui ici. Il est décédé le 5 août 2010. Il avait prononcé un discours à la Jalsa Salana au Kosovo et il avait déclaré qu'en 1985, son frère est venu rencontrer le quatrième calife. Lorsqu'il est retourné chez lui, il a mentionné la rencontre avec le calife et M. Moussa Rostomi a été influencé par son frère, car il a vu en lui de grands changements. Après ses études, il était parti en Suisse. Il est resté là-bas pendant 4 ans. Il a rencontré les Ahmadis là-bas et il était très content. Il a aussi vécu en Hollande et il a décidé de dédier sa vie pour la cause de Dieu. Il avait déjà prêté allégeance avant. en Hollande, lorsqu'il a rencontré le calife pour la première fois, il a décidé de dédier sa vie. Sa sainteté lui a demandé de partir en Albanie. Mais pour certaines raisons, il n'a pas pu le faire. En tout cas, en l'an 2000, l'amir de l'Allemagne est parti en Hollande et a demandé de trouver quelqu'un pour partir au Kosovo. M. Moussa Rastoumi a déclaré que « Je pense que personne ne voudra partir là-bas, mais je veux, moi, partir là-bas. » Et en mai 2000, suite à l'ordre du calife, il est parti au Kosovo et là-bas, il a résidé à Djilan chez son frère. Et il avait aussi une sœur qui a embrassé l'Ahmadiyya et il a dirigé la première Djuma dans la maison de son frère. Ensuite, ils sont partis à Pristina. Il fut président de la Djuma du Kosovo pendant 10 ans. Il était un ardent prédicateur. Il essaie de présenter le message de l'Ahmadiyya à tout le monde. Et il dépensait l'argent de la Jamaat avec beaucoup de précautions. Il a fait un devis complet des dépenses concernant la mission de la communauté. Une fois, il a su que son salaire dépassait le salaire des missionnaires et sans rien dire, il a rabaissé son salaire. Il ne possédait pas de voiture et voyageait à bicyclette. Ainsi, il a pu établir la Jamaat. Au Kosovo, il était toujours soucieux concernant l'éducation religieuse des nouveaux convertis. Il s'est occupé de tout le monde comme un père de sa famille. Et ainsi, par la grâce d'Allah, tous les membres de la Jamaat du Kosovo sont des moussis et sont des intellectuels. C'était une personne toujours joviale, une personne de bonne nature, une personne qui priait en toute humilité, qui avait un très grand amour pour le califat. On voyait cela dans ses yeux. Il venait me rencontrer en Allemagne au cours de la Jalsa. Et une fois, je crois l'année dernière, on avait parlé à propos des oulémas kosovars et le fait qu'ils ont dit que les Ahmadis n'accomplissent pas le Hajj mais qu'ils partent pour le Hajj. Il m'a dit que c'est pour cela que les autres ne nous écoutent pas. Et je lui ai dit de partir accomplir le Hajj et par la grâce d'Allah, il a accompli le Hajj l'année dernière. Et lorsqu'il m'a rencontré, il m'a dit que maintenant, ils n'ont plus de doléances. Il était très content, car Allah lui a donné l'occasion d'accomplir le Hajj. Il n'était pas très âgé, mais il est décédé après une courte maladie. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah lui accorde son pardon, qu'Allah accorde patience à la famille endeuillée, qu'Allah fasse qu'ils soient toujours fermes dans leur foi, et qu'Allah nous accorde des personnes qui vont travailler comme lui dans la Jamaat du Kosovo et partout ailleurs dans le monde. Des personnes qui sont emplies de sincérité et de fidélité. Des personnes qui travaillent pour la Jamaat en toute abnégation.